Place Info.
Bienvenue à tous dans Les Informés. C'est parti donc pour une heure de débat, une heure de discussion. Nos invités ce soir, Jeannick Halimi, bonsoir.
Bonsoir.
Rédactrice en chef adjointe du service politique du Parisien. Marie-Virginie Klein, bonsoir.
Bonsoir.
Communicante associée au cabinet Tilder. Et Jean-Pierre Pont, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Directeur du magazine et site web Le Journal des Français de l'étranger. Réalisateur dit inclassable, Jean-Pierre Mocky est mort ce jeudi. Quel souvenir laisse-t-il à nos informés? Tour de table dans un instant pour démarrer la soirée. C'est ensuite un problème mondial qui va nous intéresser. Le nouveau rapport des experts du GIEC sur les sols et le climat. Résultat inquiétant avec tout de même un peu d'espoir. Les choses peuvent encore changer, nous dit ce texte. Nous allons longuement en parler. L'aide aux migrants, l'Italie s'en prend aux ONG. Hier, c'est Malte qui a refusé de ravitailler le navire de SOS Méditerranée, une fermeture de ses eaux territoriales inédite. Et puis, notre dernier sujet, on s'intéressera à cette première, un hypermarché de la marque Casino qui décide de se passer de caissier le dimanche, de quoi relancer le débat sur le travail du dimanche, bien évidemment, mais aussi sur le travail sans humain.
Mais écoutez, le perchman n'est pas là, tu te rends compte? Mais c'est une plaisanterie, ça. Allez, tournons. Qu'est-ce qu'il fout, ce con? Qu'est-ce que tu fous là-bas? Viens là, nom de Dieu! Oh, mais qu'est-ce que tu allais foutre là-haut? Il est con, celui-là aussi. Oh, allez, moteur!
Allez, moteur, l'un des célèbres coups de gueule de Jean-Pierre Mocky, bien évidemment, le réalisateur mort aujourd'hui à 86 ans. Alors, qu'est-ce que l'on en retient de Jean-Pierre Mocky, que ce soit dans sa personnalité ou du côté de ses films, Marie-Virginie Klein, peut-être?
J'ai l'impression qu'au-delà d'un grand réalisateur qui a eu d'ailleurs une carrière extrêmement foisonnante, qui a énormément évolué, on perd aussi une grande figure du débat public français, qui osait vraiment dire ce qu'il pensait sans aucune concession, qui allait très fort, on l'a entendu dans votre extrait, et c'est peut-être d'autant plus triste de perdre une personnalité comme ça, à l'heure où aujourd'hui, finalement, les propos sur la plupart des médias sont très lisses. Alors, un peu du politiquement correct, c'est un peu... on perd une grande gueule et on est, je pense, tous assez tristes de la perdre aujourd'hui.
Mais c'est vrai que c'était une figure que l'on voyait au-delà de ses films, au-delà des plateaux de cinéma. On le voyait sur les plateaux de télévision régulièrement avec ses fameux coups de gueule et cette fameuse liberté, Jean-Pierre Pont.
Oui, c'est vrai que quand on reprend certains titres comme Les Dragueurs, La Grande Lessive, À mort l'arbitre, il choisissait toujours des comédiens exceptionnels comme Serrault, Eddie Mitchell et autres. Et il savait faire des films avec peu de moyens et des films à succès. Donc les producteurs l'aimaient beaucoup finalement. Parce qu'il arrivait à réaliser des films qui faisaient beaucoup d'entrées, très francophones, très francophiles. Mais il arrivait à produire ce que peu de gens savent faire aujourd'hui avec des moyens raisonnables.
Vous parliez de cette liberté de ton, Marie-Virginie Klein. On va le réécouter, tiens, Jean-Pierre Mocky. C'était sur France Info en 2010, il parlait du Festival de Cannes.
C'est toujours les mêmes qui ont des prix, toujours les mêmes. Il y a Théo Angelopoulos, il y a
Haneke,
il y a les frères Dardenne. C'est-à-dire tous les films chiants à mort, ils sont récompensés automatiquement. Et même par des gens qui les détestent. Alors ça, c'est le plus fort. Quand on était au conservatoire avec Belmondo, et Belmondo a rien eu, moi j'ai rien eu, et c'est des mecs qui ont eu les prix. Et bien on les a jamais entendu parler d'eux d'ailleurs, ceux qui ont eu les prix cette année-là. Et nous, on a entendu parler de Belmondo et de moi, donc ça veut dire que moi je suis pour les autodidactes, les prix c'est de la merde. Et un prix ça veut rien dire, c'est clair.
C'est clair, Jeannick Halimi. Liberté de ton quand même, effectivement,
oui, liberté.
Qui nous fait sourire.
Qui nous fait sourire, mais il y a aussi une critique de fond derrière tout ça, une critique des rentes de situation, peut-être du copinage, et puis il y a aussi peut-être aussi une amertume, même si son fils que j'entendais tout à l'heure disait qu'il n'avait pas d'amertume concernant le fait qu'il n'avait jamais été couronné par des prix et autres distinctions. Et puis au-delà de ce que vous disiez, effectivement, il semblait aimer l'actrice puisqu'il a fait jouer quand même des personnalités assez improbables. Enfin, en tout cas, sous la caméra de Mocky, comme Bourville ou Fernandel, on s'y attend pas. Mais aussi Patrick Sébastien, par exemple, Jane Birkin. Donc, c'est assez étonnant. Donc, vraiment, il voulait renverser un peu tous les clichés, y compris ceux de l'image cinématographique, j'allais dire. Et puis, il a bien compris aussi quelque chose au système, parce que sur la fin, ne pouvant plus être produit ou ne pouvant plus être diffusé dans les salles, il a lui-même acheté ses réseaux de salles. Je crois qu'il a racheté acheté d'abord le Brady, le fameux de cinéma
dans le 10e arrondissement à Paris.
Voilà, et puis également les plus anciens d'entre nous s'en souviennent peut-être la chaîne Action École, hein, qui était le réseau de la rive gauche pour pouvoir produire ces films, ce qui est quand même peut-être triste, mais aussi une sorte de réalisme positif de la part d'un homme comme Mocky.
C'est aussi une époque un peu qui se termine, Marie-Virginie Klein.
Oui, c'est une génération de personnalités grande gueule qui se faisaient pas prier pour dire des choses qui étaient qu'ils avaient au fond de leur trip, qui parlaient vraiment avec leur trip et qui disaient parfois aussi tout haut ce que beaucoup pensaient tout bas. Moi, je repense à son altercation avec Christine Boutin à l'époque où il avait attaqué sur un plateau télé toutes ces grenouilles de bénitiers qui l'entouraient. Il s'en était pris assez sévèrement d'ailleurs déjà tous les sujets qui entouraient les prêtres et leurs accusations, etc. Il a commencé en tant que comédien au tout départ. Il a joué d'ailleurs dans des films d'Antonioni. Donc quand même, il a une carrière de comédien assez forte. Mais très vite, il a compris que c'était plutôt vers la réalisation qu'il allait se tourner. Et donc, il a orienté ses créations vers ce qu'on appelle des comédies étranges. Ce qui en fait à la fois un personnage très central, mais aussi très marginal, parce que je crois qu'il y a eu un foisonnement très fort de production à la fin de sa carrière qui en ont dépassé certains, et on comprenait plus exactement ce qu'il voulait faire parfois à travers ses films, tellement c'était prolifique et foisonnant.
D'où cette appellation de réalisateur inclassable. La mort donc de Jean-Pierre Mocky aujourd'hui à 86 ans. La suite des informés tout de suite après un rapide point sur l'info. Il est 20h10, Claire Flochel.
L'IGPN, la police des polices, est saisie après la fausse couche d'une femme en garde à vue mardi dans le commissariat du 12e arrondissement de Paris. Un policier est suspendu provisoirement à la demande du ministre de l'Intérieur. Une cérémonie aujourd'hui sur le parvis de la mairie de Signes dans le Var en mémoire de Jean-Mathieu Michel, mort lundi renversé par un fourgon après s'être opposé à un dépôt illégal de gravats. Un maire mort pour un tas de cailloux selon les habitants. Ses obsèques seront célébrées demain. La mort de Jean-Pierre Mocky, le cinéaste français, s'est éteint à l'âge de 86 ans. Jean-Pierre Mocky, c'était un style, une gouaille, des amitiés, des coups de gueule et surtout du cinéma, a réagi Franck Riester, le ministre de la Culture. Une alpiniste est morte et un autre est blessé cet après-midi dans le massif du Mont-Blanc. Deux Italiens qui ont fait une chute de plus de 100 mètres lors de la traversée des aiguilles marbrées à 3500 mètres d'altitude. Et puis, reprise progressive des TER entre Nancy et Metz ce soir. La circulation des trains était totalement interrompue depuis 2 heures en raison d'un accident, une personne percutée sur les voies. Un accident qui perturbe également les liaisons avec le Luxembourg.
France Info.
20h-21h, les informés, Victor Matet.
Les informés avec ce soir Marie-Virginie Klein, Jannick Halimi et Jean-Pierre Pont dans le studio de France Info. Notre deuxième sujet, il s'agit de repenser l'usage des terres, de revoir aussi nos habitudes de consommation pour assurer à la fois notre sécurité alimentaire, la lutte contre le réchauffement climatique. Le GIEC, le groupement d'experts sur le climat, vient de rendre son rapport, un nouveau rapport sur le sujet avec ce premier constat. Un quart des terres émergées mondiales a été dégradé par l'homme, par notre activité. Encore une fois, et on peut le dire finalement sans surprise, c'est notre rapport à la nature, à la planète qui est mise en avant, Jean-Pierre Pont.
Oui, c'est certain. Je crois qu'il va falloir qu'on change toutes nos habitudes de vie, consommer différemment et éviter le gaspillage. Si déjà nous, dans notre petite métropole, on arrivait à le faire correctement, enfin, je sais que déjà en urbain, on arrive à consommer différemment. Je pense qu'avec nos enfants, nous obligent aussi à changer de style de vie. Mais si on ne s'y prend pas individuellement, on va directement à la catastrophe.
Question individuelle, Jannick Halimi.
Question individuelle. Écoutez, ça me terrifie un peu ce genre de rapport. Or, comme vous le disiez, c'en est un de plus. Alors là, j'ai l'impression que celui-là est terriblement alermiste, parce que alors certes,
alermiste à la fois en disant que voilà, il n'est pas trop tard, on peut encore changer les choses, et en proposant des solutions
sur lesquelles on va revenir. Bon, il faut quand même arriver à la fin pour voir qu'il n'est pas trop tard. J'en suis ravie.
Il faut le lire en entier.
Faut le lire en entier, mais quand même, le constat, alors peut-être est-il réel, mais le constat est terrible. C'est pas nos modes de vie qu'il faut changer. C'est carrément notre civilisation et c'est même carrément pratiquement la nature de l'homme. Alors je suis pas du tout en train de développer des
thèses. C'est nos modes de production,
climato,
la façon de manger, effectivement.
Oui, mais alors quand j'entendais ce matin, enfin je lisais qu'il fallait par exemple pour la France diminuer par 8 la consommation de viande. Personnellement, ça ne me touche pas. Je mange très peu de viande, donc vous voyez, c'est pas du tout une affection sociétatis que je mets sur les ondes là. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour les éleveurs après? Moins gaspiller, d'accord, mais on a l'impression que tout va exploser si la nature de l'homme même ne change pas. Qu'on change de mode de consommation, je veux bien. Qu'on développe la production de forêts ou ce qu'ils appellent l'agroforeste, je ne sais plus quoi.
J'ai plus le terme non plus, mais
moi non plus. Mais enfin, qui permet de cultiver tout en faisant pousser des forêts, c'est-à-dire de réduire la terre cultivable. En permettant à des forêts et donc à tout ce qui est poumon de la planète de grandir. Il y a des éléments intermédiaires qui sont possibles, mais j'ai quand même l'impression, alors moi qui suis une personne malheureusement d'un certain âge, j'ai l'impression de relire ce qu'on appelait les rapports du Club de Paris dans les années 70, où ils prenaient la croissance zéro, et je me demande, alors vous avez raison de souligner qu'il y a des scénarios médians, qui permettent quand même de dire il y a des choses à portée humaine qui sont possible de faire en matière, encore une fois, de consommation ou de production. Mais j'ai l'impression quand même qu'au bout du bout, c'est une planète et un système, un modèle de société malthusien, mais malthusien au bout duquel il faudrait finalement que ce soit la population elle-même qui diminue en nombre. Et là, je me pose des questions. Comment faire? Et là, je dis, attention, danger, pour le coup, parce que quelles sont véritablement les solutions définitives que tous ces différents experts accordent à l'espèce humaine?
Alors, faire diminuer la population, a priori, c'est mal parti, hein, puisqu'on parle de 11 milliards d'habitants sur la planète d'ici en 2100. L'idée, c'est justement qu'on va produire plus de toute façon. Et l'idée, Marie-Virginie Klein, c'est d'essayer de produire justement mieux.
Mieux, et puis de moins gâcher aussi, parce que d'après ce rapport, entre 25 et 30% de ce qui est produit est gâché et jeté. Donc déjà, si on arrivait à gâcher moins, il y aurait une vraie avancée. Alors moi, je ne crois pas que ça soit forcément un signal. C'est alarmiste et je vous rejoins. Mais quand on regarde la rapidité avec lesquelles nos habitudes alimentaires ont évolué, finalement, c'est presque un retour à la normale. C'est pas forcément la fin du steak frites à la française. C'est juste revenir à une consommation plus modérée. Depuis 61, notre consommation d'huile végétale et de viande a été multipliée par 2. C'est quand même énorme. En 40 ans, on mange 2 fois plus de viande aujourd'hui qu'avant. Donc, il y a cette limitation donc qui est soulignée, même si le GIEC reste très 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 prudent. Il ne fait pas de recommandations, il dit... Je constate que voilà, on mange peut-être un peu trop de viande.
Et le GIEC dit que c'est pas à lui de dire voilà s'il faut devenir végane, végétarien, mais voilà.
Oui, parce que d'ailleurs on voit hein, quand on regarde un peu les réactions, c'est un peu intrusif et il y a beaucoup de gens que ça énerve de dire attention, moi j'aime la bavette et qu'on commence pas à m'empêcher de d'en manger et de manger que de devenir un mangeur de graines. Et on consomme aussi un tiers de calories en plus qu'avant. Moi, il y a quelque chose que je veux souligner. Enfin, 2 choses. D'abord, c'est la première fois que dans un rapport du GIEC, il y a une majorité d'experts qui représentent les pays en développement. Donc, c'est pas non plus tout à fait un hasard si ce sujet de l'alimentation est complètement central dans cette édition-là. Et je pense que si ce qui est souligné est de façon très forte, c'est aussi la rapidité avec laquelle l'opinion a évolué sur ces sujets. En 77, quand on regarde un peu les reportages sur le pourquoi la pollution, pourquoi le réchauffement climatique, on disait presque que ça venait d'un phénomène divin, on savait pas, ou peut-être la bombe atomique, c'était très flou. Aujourd'hui, tout le monde a une conscience vraiment très forte des raisons.
Il y a la conscience, mais ensuite il faut passer à l'acte.
Ouais, mais j'ai l'impression, en tout cas, quand on regarde un peu les réactions, il y a ceux qui vont protester contre toutes ces actions individuelles qu'on demande parce que ça retombe encore une fois sur la tête du consommateur et c'est au consommateur encore de faire tous les efforts et à commencer par son alimentation. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a une conscience extrêmement forte et que ce qui était possible avant n'est plus possible du tout aujourd'hui.
Sont pointés du doigt notamment les agriculteurs et les modes de production. Et en même temps, Jean-Pierre Pont, ce qu'on dit, c'est que la solution, elle va venir aussi des agriculteurs.
Oui, mais là, on parle beaucoup des pays occidentaux, l'Europe entre autres, mais on ne parle pas des pays du Sud, qui ont des problèmes très différents. et qui sont pour nous, qui vont être responsables à cause de la déforestation au Brésil ou en Afrique, et des problèmes de natalité, des problèmes d'alimentation dans les pays du Sud. Nous, on vit dans le luxe. On peut se permettre de dire, on va manger moins de viande, manger plus de graisse et de légumes. Mais dans les pays du Sud, ils n'ont pas ce problème-là. Il n'y a pas de gaspillage alimentaire. Il y a un problème d'alimentation saine. Mais les multinationales qui sont installées en Afrique il y a un demi-siècle, elles ont développé des produits, je le cite, comme le Maggi ou le lait en tube. Et les Africains cultivent de moins en moins l'alimentation traditionnelle comme le sorgho. Ils importent du riz, etc. Donc tout ça fait partie des problèmes que nous, on doit aussi aider à régler. Parce que ce sont ces pays aujourd'hui qui ont une natalité exceptionnelle. Si on ne les aide pas à réguler leur consommation et à développer une agriculture qui soit en correspondance avec leurs besoins, on va à la catastrophe. Et d'où l'immigration qu'on vit tous les jours aujourd'hui. Parce qu'il y a des problèmes dans le Sud qui sont très différents des nôtres.
On entendait un responsable du syndicat, la FNSEA, sur notre antenne, sur France Info, aujourd'hui dire justement que voilà, il fallait peut-être revoir des choses, mais que le modèle français n'était certainement pas le pire. C'est difficile justement d'à la fois réfléchir de son propre modèle, mais de se dire que ben on peut pas influer sur le monde entier, Jeannick Hallemi.
Alors oui, je me lancerai pas, mais vous avez totalement raison sur l'analyse géopolitique, géostratégique, mondialiste à laquelle vous livriez, monsieur. Mais c'est vrai que au niveau français ou au niveau national, se posent des problèmes de politique publique à mener. C'est effectivement devenu, on l'a vu de façon très prosaïque, hein, avec les européennes, tout simplement, un peu partout dans les pays en Europe, où l'écologie est devenue centrale avant même ce qu'on pensait être, il y a encore un an, au centre du débat européen qui devait être l'immigration, la sécurité et les frontières. Mais il n'empêche que les experts, mais il y a aussi les hommes, les femmes politiques d'État qui doivent mener des politiques publiques d'incitation, de renforcement des protections, et puis aussi au jour le jour associer les grandes firmes de agroalimentaires ainsi que la grande distribution. Et ça se fait pas à pas, de façon prosaïque et en respectant la nature humaine. Je dis la nature humaine, c'est l'homme dans toute sa complexité.
Et on va poursuivre le débat. Une nouvelle pause dans les informés. 20h20, l'info Claire Flochel.
Ce que j'admirais le plus chez lui, c'était sa liberté. La fille de Jean-Pierre Mocky, Olivia, salue la mémoire de son père sur France Info. Le cinéaste français, réalisateur de plus de 60 films, s'est éteint à l'âge de 86 ans. Alain Delon, victime d'un accident cardiovasculaire il y a quelques semaines, on l'apprend seulement aujourd'hui. Son fils Anthony assure qu'il se repose actuellement dans une clinique en Suisse. L'acteur de 83 ans est dans un état stable selon les médecins. Les 31 familles yézidis qui ont atterri ce matin à Toulouse vont être accueillies dans 6 départements. Des femmes avec enfants victimes du groupe État islamique originaire du Kurdistan irakien. Ces arrivées s'inscrivent dans le cadre d'un programme de l'État qui leur assure protection, sécurité et éducation. Un adolescent britannique de 17 ans va faire l'objet d'une expertise psychiatrique avant son procès en février. Il est accusé d'avoir poussé un Français de 6 ans du haut du musée Tate Moderne de Londres. Le petit garçon est gravement blessé. Et puis les relations diplomatiques et commerciales quasiment rompues entre l'Inde et le Pakistan. Mais le Pakistan écarte aujourd'hui l'option militaire face à l'Inde après la décision de New Delhi de révoquer l'autonomie du Cachemire.
France Info. 20h, 21h, les informés, Victor Matet.
Jeannick Hallemi, Marie-Virginie Klein et Jean-Pierre Pons sont toujours avec nous dans les informés pour poursuivre ce débat après ce rapport du GIEC sur les sols et le climat. Je vous propose d'écouter Valérie Masson-Delmotte, l'une des expertes du GIEC.
On a dans le monde 821 millions de personnes qui ne mangent pas à leur faim et on a 2 milliards de personnes qui sont en surpoids ou qui souffrent d'obésité. Donc on voit bien qu'on a un système alimentaire mondial qui n'est pas soutenable et qui pose des enjeux de santé publique.
Marie-Virginie Klein, on en parlait tout à l'heure de ces questions de répartition, de ces questions de gaspillage. Voilà, elles sont résumées là.
Et elles sont en fait pas si récentes, mais aujourd'hui elles ont une acuité beaucoup plus forte. Moi, je pense à Pierre Rabhi, parce que Pierre Rabhi, c'est quand même lui qui, en France en tout cas, a été l'un des premiers à prôner la puissance de la modération alimentaire pour vivre en bonne intelligence avec les ressources de notre planète. Moi, j'ai l'impression que c'est quand même même un mouvement. Donc, en gros, Pierre Rabhi, on a commencé à vraiment parler de lui en 2006. Il a sorti son livre qui a eu un grand succès en 2015. Donc, ça fait, voilà, ça fait 10-15 ans qu'en France, on a ce sentiment très fort. Ça devient maintenant des sujets quand même qui sont de plus en plus internationaux. Je ne vais pas reparler de Greta Thunberg, mais qui quand même mobilise autour d'elle des millions de jeunes autour de ce sujet du réchauffement climatique. Moi, j'ai quand même cette certitude, c'est que rien ne peut plus être comme avant et que les changements vont se faire. Là, on est à l'époque estivale où les gens partent en vacances. Il y en a peut-être qui partent dans des clubs, etc. Il y a du gaspillage alimentaire qui se fait encore aujourd'hui. On finit pas son assiette, on jette énormément beaucoup dans les croisières, etc. Bientôt, ça ne sera plus possible. Le client lui-même ne tolérera plus un tel gâchis quand il choisira ses destinations de vacances.
C'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, Jean-Pierre Ponck, c'est aux jeunes de prendre le relais, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une conscience qui se fait aujourd'hui dans la jeune génération et que finalement, quand elle sera totalement à l'âge adulte, eh ben, les choses seront totalement inscrites, totalement ancrées.
C'est un peu le problème de l'éducation nationale, finalement. Si on ne commence pas à éduquer les nouvelles générations à vivre d'une façon différente... Effectivement, on disait tout à l'heure que nous mangeons déjà très peu de viande, mais c'est sûr que nos enfants déjà commencent aussi à évoluer dans leur alimentation quotidienne. Mais on en revient toujours aussi à l'international. C'est comment gérer sur plan mondial ce phénomène. Si le G8, le G20, l'ONU s'en mêlent pas, on n'avancera jamais.
Et aussi à cette question dont on parlait tout à l'heure rapidement, Yannick Halimi, de cette responsabilité individuelle ou collective, parce qu'effectivement, c'est bien de ne pas manger de viande et effectivement de moins utiliser de plastique si l'on veut à son échelle personnelle, mais si on continue à produire et à produire, les choses sont là.
Oui, vous avez raison, mais d'un autre côté, comme vous le soulignez, il y a quand même, et comme soulignait d'ailleurs l'experte du GIEC, il y a quand même des millions, des centaines ou des dizaines et des centaines de millions de gens qui ne mangent pas encore à leur faim. Et là, la question quand même qui se pose, c'est comment les nourrir. Ou alors, vous parliez, monsieur, de migration internationale, justement, pour des raisons de changement climatique et donc de sécurité quantitative alimentaire. Il y a aussi des experts, alors moi, je ne suis pas capable de faire la part entre certains experts et d'autres, mais qui prônent tout de même pour ces continents-là des pratiques extrêmement intensives. Je sais que ce n'est pas politiquement correct, mais des pratiques agricoles intensives qui permettent justement d'assurer la sécurité alimentaire tout en préservant les sols. Donc je pense que c'est quand même extrêmement compliqué, qu'il y ait une prise de conscience, on le sait, dans la jeunesse, avec des mouvements d'ailleurs qui vont reprendre, vous savez, de grèves de certains étudiants ou lycéens à la rentrée. C'est une chose, c'est un constat, c'est un fait, c'est certainement indispensable. Mais encore une fois, quelles sont les véritables solutions? Est-ce que ça doit passer par la contrainte et au nom de l'écologie avec un grand E, limiter la liberté des uns et des autres, et on sait que le chemin de l'enfer est pavé de bonnes intentions, sans remettre en cause, encore une fois, le réchauffement climatique et les politiques qu'il faut mettre, enfin en tout cas les comportements anti-gaspillage qu'il faut mettre en œuvre. Jusqu'où ça peut aller, encore une fois, les scénarios qui sont décrits ici et là sont terriblement pessimistes, sauf à, encore une fois, à éviter que la population ne croît, mais comment faire pour empêcher qu'elle croisse? On ne voit pas, sauf à développer tout de même d'une façon ou d'une autre une agriculture intensive qui serait tout de même respectueuse du climat et des sols, je ne vois pas comment on va faire pour nourrir combien, 11 milliards de personnes d'ici, alors je ne sais plus, 30, 40 ou 50 ans. Tout ça est extrêmement... le constat, je pense, tout le monde plus ou moins est d'accord pour le faire. Les solutions pour échapper à cette spirale
avec
infernale...
Avec notamment la Chine, les États-Unis qui sont les deux plus gros pollueurs de la planète, les États-Unis qui sont sortis de l'accord de Paris. Voilà, et cette question, comment
la
on
Chine
fait justement...
La Chine qui a pris la tête de la FAO, je crois, il y a quelques mois, mais on dit qu'aussi en Chine, il y a des mouvements de sociétés qui eux-mêmes aussi mettent un frein à ce dérèglement, pour le coup, complètement sauvage de la planète, des consommation et des modes d'exploitation des terres. Mais encore une fois, posons-nous la question sur quoi tout cela peut déboucher en termes de production, de politique publique et de liberté publique.
C'est ce que j'allais vous demander, Marie-Virginie Klein, comment on fait, ou Jean-Pierre Pont, si vous voulez répondre, comment on fait justement pour être sûr que ce rapport du GIEC ne soit pas mis à la poubelle et puis que dans les prochains mois, on dit un nouveau rapport et qu'on se repose exactement les mêmes questions.
Moi, je pense que les comportements des grands industriels et du monde de l'entreprise en général est aussi très, très, très sensible aux attentes de ses consommateurs. Et c'est pour ça que ces mouvements-là de prise de conscience, ils ne sont pas inutiles parce que ça fait vraiment ça, hein, incite vraiment les groupes et les industriels et les producteurs à changer leur comportement. C'est pas forcément toujours par la loi qu'on obtient les choses, mais c'est aussi par la pression de l'opinion à laquelle moi je crois beaucoup.
Jean-Pierre Pont.
Oui, mais en final, il faut savoir que l'ONU existe toujours. Et si on n'intervient pas quand la Chine loue des terres en Éthiopie ou en Angola, parce qu'ils ont ce problème également, si on n'intervient pas sur le plan mondial et qu'on régule pas cet univers, on s'en sortira pas. Et ça ne peut être que l'ONU, à mon avis, qui peut imposer des solutions avec les difficultés qu'on aura avec les pays comme la Chine et les États-Unis.
Jean-Pierre Pont, Marie-Virginie Klein et Yannick Halimi, vous restez bien sûr avec nous. La suite des informés dans un instant, le temps de faire un point sur la météo et sur l'info.
France Info Météo, avec Gauthier, séjour, salon, chambre et dressing. Le mobilier pour toute la maison à retrouver dans nos magasins et sur gauthier.fr.
Les prévisions avec vous, Jean-Pierre Rameau.
Ce soir, nous allons surveiller l'arrivée d'un front froid actif du côté de la pointe bretonne. Les pluies associées seront marquées. Elles gagneront en cours de nuit la Basse-Normandie. Le vent de sud va se renforcer pour souffler jusqu'à 70 km par heure. Demain matin, cette perturbation va s'étendre des Pays de Loire au Nord-Pas-de-Calais en passant par la Haute-Normandie. À l'avant, le ciel sera nuageux avec quelques ondées. Vous profiterez encore du soleil de la Nouvelle-Aquitaine jusque vers les frontières de l'Est, sans oublier la région PACA et la Corse. L'après-midi, le soleil va résister en région PACA ainsi qu'en Corse et partout ailleurs, le temps sera variable avec un régime d'averses. Ces averses seront localement orageuses entre les Pyrénées, le Massif central, la Bourgogne et jusque vers les frontières belges. Le vent de sud va souffler jusqu'à 80 km/h à l'intérieur de la Bretagne et de la Basse-Normandie. Prévoyez jusqu'à 100 km/h près des côtes bretonnes. Côté température, les maximales évolueront entre 21 et 26 degrés en bordure de Manche. Prévoyez 27 à 38 du nord au sud.
Jean-Pierre Rameau, Météo France. Bienvenue sur France Info. Il est 20h30.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
L'info à Maya Cazeneuve.
Un mec magique, le plus emmerdeur du monde, mais avec un cœur énorme. Ces mots sont ceux de l'acteur Richard Bohringer après la disparition de Jean-Pierre Mocky. Le cinéaste français connu pour ne pas avoir sa langue dans sa poche est mort aujourd'hui à l'âge de 86 ans. Au cours de sa carrière très prolifique, il aura réalisé plus d'une soixantaine de films, dont Le Miraculé, À mort l'arbitre ou La Grande Lessive. La mise en garde de Donald Trump à Emmanuel Macron dans le dossier iranien. Le président américain déclare ce soir que personne, à part les États-Unis eux-mêmes, n'est autorisé à parler au nom de Washington. Donald Trump réagit à un article publié sur un site au Moyen-Orient en début de semaine. Il y est écrit qu'Emmanuel Macron a invité son homologue iranien Hassan Rouhani au G7 de Biarritz pour y effectuer une médiation avec Donald Trump. Information démentie. L'IGPN ouvre une enquête à Paris alors qu'une jeune femme affirme avoir perdu son enfant à la suite d'une garde à vue. Cette trentenaire a été interpellée mardi après une agression sur un couple. Les policiers ont voulu la placée en garde à vue, mais elle s'est débattue pour ne pas aller au commissariat. Hospitalisée, elle a fait une fausse couche. La jeune femme a porté plainte. Un policier a été provisoirement suspendu en attendant les conclusions de l'enquête. Les conséquences de l'incendie de Notre-Dame de Paris en avril et cette pollution au plomb qui inquiète toujours, des particules se sont dispersées aux alentours de la cathédrale et notamment près du groupe scolaire Saint-Benoît dans le 6e arrondissement de Paris qui a d'ailleurs été fermé par la mairie par précaution. Le temps de mener des travaux nécessaires pour faire place nette. Les travaux ont d'ailleurs commencé hier. Visite de chantier avec Benjamin Hilly.
Des engins imposants, des pelles qui arrachent par gros morceaux le bitume contaminé au plomb dans cette cour de récréation. 200 à 240 tonnes de déchets dangereux à évacuer. Il y a des risques, équipements obligatoires pour les 10 ouvriers mobilisés et les visiteurs.
Vous allez mettre vos surchaussures, après vous allez mettre une tenue de protection et une protection respiratoire.
Ok.
Voilà, masque sur le visage, bien fermer la combinaison.
A tout de suite.
Michel Prestabonne, chef de chantier.
Donc la procédure correspond à excaver l'ensemble des enrobés souillés, donc avec une contamination au plomb.
Elles sont par la suite conditionnées dans des sacs réglementaires, des big bags, afin d'être acheminées sur une unité de traitement de déchets dangereux.
Une méthode fastidieuse et radicale, mais qui s'imposait. Agnès Lefranc, chef du service de santé environnementale rattaché à la ville de Paris.
Lors de la première série de prélèvements et d'analyses, les niveaux étaient de l'ordre de 7000 microgrammes par mètre carré dans chacune des cours. Et là, définitivement, suite au débituminage, la contamination au plomb sera totalement éliminée.
Au total, 4 écoles, selon la mairie de Paris, sont touchées par cette pollution au plomb dans les 6e et 7e arrondissements. Des travaux seront menés dans chacune d'entre elles, comme à Saint-Benoît, pour une réouverture en toute sécurité à la rentrée.
Le reportage de Benjamin Hilly pour France Info. Un mot de football pour terminer ce journal. Strasbourg, qui veut poursuivre sa campagne européenne, est bien parti. 3e tour de qualification de Ligue Europa. Et pour l'instant, les Alsaciens qui sont en Bulgarie sur la pelouse du Lokomotiv de Plovdiv, eh bien, ils sont devant 1-0 pour l'instant à la mi-temps.
Amaya Cazenave pour l'info, 20h33.
20h21h, les informés, Victor Matel.
Les informés de France Info avec toujours dans le studio Marie-Virginie Klein, communicante associée au cabinet Tilder, Jeannick Alimi, rédactrice en chef adjointe du service politique du Parisien, et Jean-Pierre Pont, directeur du magazine et du site web également, Journal des Français de l'étranger. On en vient à notre troisième sujet, la situation de l'Océan Viking, le navire de SOS Méditerranée qui a succédé à l'Aquarius, à peine parti de Marseille vers la Libye pour des opérations de secours de migrants. Le navire a connu sa première déconvenue, Malte, qui devait lui permettre de se ravitailler en carburant, a finalement refusé. Le bateau peut toujours avancer, mais moins longtemps que prévu. Michael Neumann, de Médecins Sans Frontières.
Il dispose d'une réserve de carburant suffisante, d'une dizaine de jours, pour continuer sa recherche, mais cette décision de Malte signifie que son temps de navigation sera moins important et que par conséquent, il devra rejoindre son port d'attache, Marseille, pour ravitailler plus tôt que prévu. Les États européens savent parfaitement que ces décisions, la décision de Malte, elles risquent de faire des morts.
Une décision qui risque de faire des morts, et l'Europe qui ne fait rien, cela résume finalement assez directement, assez froidement aussi, la situation actuelle des migrants, Jeannick Alimi.
Vous avez raison, à travers ce nouveau drame, c'est effectivement la politique européenne qui est montrée du doigt par son absence, ses insuffisances et sa faillite, tant en termes de protection. Tout simplement, on a le droit de se protéger, de gérer ces flux migratoires. Et là, c'est l'échec de Frontex, de toute façon, avec des arrivées alors qui ont diminué hein, depuis 4 ou 5 ans, mais tout de même qu'on gère très très mal. Donc, dans le côté protection des frontières au niveau européen, mais aussi dans la politique, bien évidemment, de l'accueil de l'Union européenne et de chacun des pays, accueil de réfugiés qui fuient les théâtres de conflits internationaux en Irak ou en Syrie, ou alors des zones de terrorisme dans le Sub-Sahel, voire de famine au moins potentielle. Et l'Europe, encore une fois, faillit dans la protection des frontières, dans l'accueil de ces réfugiés, avec les développements que l'on connaît en termes de poussée europhobe et nationaliste au sein de l'Union.
Et ce qui est terrible, c'est que là, on n'est même pas encore dans la question de l'accueil, on est dans la question du sauvetage, dans la question du sauvetage de vie humaine, Marie-Virginie Klein.
Ah, moi, je trouve ça ce qui se passe là, c'est d'une tristesse absolue. En plus, Malte, visiblement, a changé d'avis deux heures avant l'arrivée du bateau vers ses frontières, c'est-à-dire qu'il était prévu un arrêt pause carburant qui, deux heures avant, a été annulé. C'est quand même une fierté qu'on ait comme ça, une association comme Médecins Sans Frontières qui prennent cette initiative-là d'aider les migrants, de les aider et de les soutenir en les aidant à traverser ces pays-là. Et là, on a une espèce de baisse de solidarité comme ça entre les autorités européennes qui n'arrivent pas à se mettre d'accord entre elles. Moi, ça me rend vraiment, ça me rend très triste, quoi, cette situation.
Jean-Pierre Pont.
Moi, ce que je trouve dramatique, c'est qu'il y a un manque d'anticipation au niveau de nos organisations. On a besoin d'une partie de ces compétences et de cette main-d'œuvre.
Ces bateaux-là, ça devrait être l'État qui les envoie, et pas l'Union européenne.
Mais Malte, par exemple, même s'ils sont que 437 000 habitants, est en plein emploi en ce moment. Il y a 2% de chômage. Donc ils ont à la limite besoin d'accueillir des immigrants, ne serait-ce que pour travailler dans la restauration. S'il y a des immigrants francophones, ils ont des centres d'appel. Je ne sais pas si vous le savez, mais Le Bon Coin, ce centre d'appel à Malte. Ils cherchent donc, on a des centres d'appel à l'étranger, à Madagascar, en Tunisie et ailleurs. Là, aujourd'hui, certains de ces immigrants trouveraient du travail à Malte ou ailleurs. Mais on n'anticipe en rien. Fournir du fuel, c'est quand même un peu anticipé. Accueillir quelques centaines de personnes, parce que, en plus, les quantités aujourd'hui d'immigrants sont très faibles par rapport à il y a 3-4 ans. Mais personne ne s'organise pour, quelque part, accueillir ces gens dans des conditions légales et propres.
Et plus le temps passe, plus les conditions se durcissent. Sûr. On l'a vu encore avec l'Italie, Jannick Halimi, ces derniers jours. Maintenant, Malte, l'Italie qui a pris un décret anti-immigration extrêmement strict.
Anti-immigration, Italie avec donc à la tête de l'État Monsieur Salvini et puis des représentants du parti 5 étoiles, mais tout le monde connaît un peu l'enchaînement des faits. Il faut reconnaître que ce qui se passe en Italie est également tout de même la conséquence de l'absence et la faillite de politique européenne. Souvenez-vous, au lendemain du déclenchement du conflit irako-syrien, où cette année-là, c'était en 2015, il y a eu un afflux massif pour le coup de réfugiés à travers toute l'Europe, et une des portes d'entrée était l'Italie, et souvenez-vous de Lampedusa, et la l'Europe, un pays comme la France, il n'y avait eu également n'ont eu que peu de gestes de solidarité nationale et européenne. Il y avait eu Madame Merkel et l'Allemagne qui les a accueillis et qui a ouvert ses portes de façon totalement bienveillante, mais ce qui se passe en Italie, en tout cas, une des explications est quand même la faillite de l'Europe dans ce domaine-là, dans des zones en plus extrêmement défavorisées, puisque c'est le sud de l'Italie. Et je suis également surprise, même quand on est pro-européenne, europhile et pour la construction de l'Europe, comme on peut l'être pour beaucoup, de l'absence de débat sur cette thématique-là, non pas pour hystériser le débat, mais pour tenter de lui apporter des solutions, encore une fois, européennes, coordonnées et rationnel de l'absence de ce débat il y a à peine 3 mois au moment des élections européennes en France et j'ai l'impression un peu partout dans les pays de l'Union.
On va continuer d'en parler dans un instant après un point sur l'info 20h40, Claire Flochel.
Les 5 Français interpellés hier en Espagne à Benidorm auraient agressé sexuellement 2 femmes. Arrêtés d'abord pour le viol d'une Norvégienne, ils sont aussi poursuivis pour des attouchements sur une autre Norvégienne. Les 2 femmes âgées de 20 ans, des amis, ont rencontré leurs agresseurs présumés via les réseaux sociaux. Il était le plus inclassable des réalisateurs français. Jean-Pierre Mocky est mort. Il s'est éteint à l'âge de 86 ans. Auteur de plus d'une soixantaine de films, il était considéré comme l'anarchiste du cinéma français. L'hommage au maire de Signes dans la petite commune varoise. Aujourd'hui, des centaines de personnes rassemblées devant la mairie et qui entonnent la Marseillaise. Jean-Mathieu Michel a été tué lundi, renversé par un fourgon venu décharger illégalement des gravats sur un chemin de la commune. Il ne faut pas casser le modèle français d'agriculture, c'est ce que déclare sur France Info Olivier Daugé, agriculteur et élu FNSEA, après la publication du nouveau rapport du GIEC. En résumé, les experts du climat de l'ONU incitent à privilégier les céréales, les légumes, les fruits et à réduire notre consommation de viande dont les effets sur le réchauffement climatique est plus important. Et puis Christian Gourcuff est le nouvel entraîneur de Nantes. Il ne sera pas sur le banc dimanche à Lille puisqu'il arrive la semaine prochaine. La saison de Ligue 1 s'ouvre demain soir.
France Info.
20h, 21h, les informés, Victor Matet.
Et à travers la situation du navire de SOS Méditerranée Océane Viking, on continue à s'intéresser au sort des migrants. Vous le disiez, Jannick Halimi, pas de solution au niveau européen. De manière encore plus cynique, vous évoquiez Angela Merkel qui a accueilli les migrants à partir de 2015-2016 en Allemagne, ce qui lui a coûté en popularité. Et on voit aujourd'hui, Marie-Vierge Nicolin, que Matteo Salvini, lui en Italie, fait le geste inverse, là aussi pour des questions de popularité.
Oui. Et d'ailleurs, là, concernant cet épisode très précis de l'Ocean Viking, qui par ailleurs, a changé de nom puisque c'était l'ancienne Aquarius. Et donc, d'un point de vue de communication, ce changement de nom, il est aussi intéressant. Mais on voit bien que les difficultés
d'avant... En tant que communicante, justement.
Non, mais se reproduisent, on change de nom, mais les problèmes surviennent à nouveau. Et donc, là, il y avait l'Aquarius. Et maintenant, ça sera le problème de l'Ocean Viking. Et je pense que ce débat va se développer beaucoup là, dans les jours qui viennent. Moi, ce que je constate, c'est quand même le manque d'engagement là et de prise de parole sur cet épisode précis politique. J'ai un petit peu regardé quand même et j'ai pas vu de déclaration très ferme ni d'engagement pris que ce soit de la part de notre gouvernement ou que ce soit de la part de chefs de parti et de personnalités politiques. Donc pour l'instant, ce qu'on voit, c'est très factuel. On voit que le bateau n'a pas pu se ravitailler en carburant et puis c'est tout. Finalement, le débat n'avance pas et on reste dans le constat et je trouve ça aussi c'est pas très constructif comme
Et comme on le disait aussi Jean-Pierre Pont avant les titres, finalement pendant les européennes, c'est l'environnement qui a été le grand sujet de tous les partis et ce sujet de l'immigration, on est un peu passé à côté.
Vous savez, on a un réseau européen de l'emploi qui s'appelle EURES qui cherche en permanence 3 millions de personnes en Europe. Il y a 3 millions de postes disponibles, dont 250 000 en Belgique, 400 000 en Allemagne, etc. Alors, on a un problème d'employabilité. Donc, organiser l'immigration, il n'y a rien de négatif. Les Canadiens s'organisent pour faire ce qu'ils appellent l'immigration choisie. Évidemment, ils vont sélectionner nos meilleurs candidats qu'on pourrait garder en France ou en Europe. Mais là aussi, on pourrait organiser cette immigration qui est de toute façon inévitable. Donc, il y a un vrai problème.
C'est encore plus compliqué parce que autant l'accueil des réfugiés en tant que tel, donc pour des raisons politiques, peut être admise par toute une partie et de la population et de la classe politique. En revanche, tout ce qui est immigration économique, il semble avoir une unanimité pour évidemment que des flux légaux soient gérés, ça y a pas de problème, mais elle est contestée parce que elle est perçue comme étant une concurrence frontale pour les salariés des différents pays européens, ne parlons que pour la France, et même un parti comme la France Insoumise qui est plutôt ouvert sur l'accueil des immigrés, mais qui a également un électorat, une base électorale extrêmement populaire dans des régions où le chômage est endémique, il va à pas feutrer, et encore c'est un euphémisme, pour tout ce qui est accueil des immigrés économiques. Donc là, c'est encore plus compliqué le sujet de l'immigration économique, même si sur le fond, vous avez bien évidemment raison, il va falloir faire face à ces migrations pour des raisons terroristes, de guerre, climatique, et également économique, sauf à développer l'Afrique, les pays en Afrique, ce que s'acharne à faire, en tout cas prône énormément d'hommes et de femmes politiques pour le coup de tous les bords, mais ça prend des décennies.
On a vu encore récemment une partie des États européens, ils étaient 14, essayer de trouver des accords de répartition pour l'accueil des réfugiés et des migrants en Europe. On a l'impression qu'à chaque fois, le problème est repoussé. Est-ce qu'on va un jour réussir à trouver un accord justement au niveau européen, Marie-Vierge Niclin?
Je sais pas si un jour on y arrivera, mais en tout cas, ce qui est questionnable, c'est est-ce que vraiment le système européen tel qu'il est organisé permet vraiment de trouver des solutions et permet vraiment de trancher entre l'ensemble des pays qui doivent se mettre d'accord sur la question de l'immigration. Chacun se renvoie la balle, chacun essaie de limiter le nombre d'immigrés qu'il peut accueillir en disant qu'un tel en a moins et qu'il peut en avoir plus. Dans des situations comme ça, je vois pas comment on peut sortir du débat de l'immigration sans changer profondément la façon dont les décisions sont prises au niveau européen. Ça peut pas être basé uniquement sur une concertation. Il faut à la fin des prises de position fortes. Et aujourd'hui, je vois pas comment on en sort.
Jean-Luc Alimi.
Alors moi, je pense qu'il y a déjà une clarté, un pas à faire dans la transparence et dans la clarté des statistiques. Quand vous prenez les derniers tableaux d'origine origines de ces réfugiés politiques. Beaucoup maintenant viennent d'Afghanistan, donc pas. Alors c'est vrai que ça bouge beaucoup en Afghanistan, mais ces dernières années, c'était plutôt la zone moyenne-orientale, Irak, Syrie et puis subsaharienne. Mais donc ils viennent beaucoup d'Afghanistan, mais également de l'Albanie. C'est un des pays où le nombre de réfugiés est le plus en Europe et en France, pardonnez-moi, en France est le plus important. Donc avant d'apporter des solutions, faisons déjà un constat et quantitatif et qualitatif, j'allais dire, des chemins et des origines de ces réfugiés.
Un dernier mot sur le sujet, Jean-Pierre Pont.
En ce qui concerne ce bateau, on parle essentiellement des gens qui viennent de Libye. Donc il s'agit soit de Soudanais ou d'Éthiopiens, d'Érythréens, soit de gens qui viennent d'Afrique centrale ou d'Afrique de l'Ouest. Donc souvent de francophones. On n'est pas dans le même cas que l'Albanie.
Non, bien sûr, je parlais d'un point de vue général sur l'Europe et les flux, et les flux migratoires.
Une partie de ces immigrants pourraient être intégrés, vont l'être d'ailleurs, mais on fait du coup par coup au lieu d'anticiper.
Très bien, Yannick Halimi, Marie-Virginie Klein, Jean-Pierre Pont, on continue notre débat sur les informés. Notre dernier débat ce soir concerne notre vie quotidienne d'aujourd'hui, mais également du futur. Pour la première fois, un hypermarché va ouvrir ses portes le dimanche, toute la journée, une surface de 5000 mètres carrés. Il s'agit du casino de la Roseraie à Angers, et ce sera sans caissier l'après-midi, ce qui fait déjà bondir les syndicats, on va y revenir. Alors va-t-on à terme vers la fin de ce genre de scène?
Eh bien là ça passe pas, il y a des gens qui attendent derrière là monsieur.
Ce qu'on pourrait faire madame Germain c'est peut-être passer les pieds sur une autre caisse peut-être.
Oui je comprends bien mais là ça passe toujours pas. Non la seule chose, vous nous faites un avaloir de 1000 francs, vous serez remboursé dans les 6 mois.
Voilà.
Avec la carte bleue bien sûr monsieur.
Voilà.
Monsieur. Ça passe pas.
Mais c'est pas mon problème.
Voilà, un extrait d'un sketch des Inconnus. Vous avez sans doute reconnu Didier Bourdon, Pascal Légitimus et Bernard Campan. Plus sérieusement, un hypermarché ouvert le dimanche et sans caissier. Est-ce qu'on va justement à terme vers la fin de ce métier de caissier, Yannick Halimi?
Écoutez, c'est j'ai l'impression que c'est écrit déjà depuis plusieurs années, avec bien évidemment les questions d'emploi que cela pose, mais aussi des questions de reconversion, de formation pour accompagner ces mouvements-là. Mais ce mouvement me semble, commandé par deux grandes tendances qui sont les besoins des consommateurs. Alors après, on dit c'est l'offre qui crée la demande et c'est pas la demande qui crée l'offre, etc. Il n'empêche qu'il y a un besoin de consommateurs, notamment bien sûr dans les grandes zones urbaines de consommer quand ils veulent, au moment où ils le veulent. Et puis, et surtout peut-être, il y a la concurrence d'Internet, où là c'est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365 jours. Et c'est aussi une réponse, on verra si ça tient la route économiquement, mais une réponse structurelle de la distribution en briques face à la distribution en clics.
En briques, en clics, les rimes et la dernière partie des informés dans un instant, juste après un nouveau point sur l'info. Il est 20h50, Claire Flochel.
Jean-Pierre Mocky, c'était de l'extravagance, du talent, selon le comédien Richard Bohringer. C'était un type qui avait la vie en lui, pour l'ancien ministre de la Culture, Jack Lang. Voilà quelques-uns des nombreux hommages après la mort du cinéaste français, Jean-Pierre Mocky, à l'âge de 86 ans, réalisateur inclassable de plus d'une soixantaine de films. Un policier du commissariat du 12e arrondissement de Paris, suspendu provisoirement, une demande de Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur. Une femme enceinte de 2 mois a fait une fausse couche alors qu'elle était en garde à vue dans les locaux avant-hier. La police des polices est saisie. De nouvelles interpellations dans le cadre de l'enquête sur l'affaire des cigarettes trafiquées en Haute-Loire. 2 suspects âgés de 17 et 18 ans arrêtés. Ils sont soupçonnés d'avoir proposé des cigarettes qu'ils avaient empoisonnées avec une substance plus forte que du cannabis. Une fois les victimes prises de malaise, ils les détroussaient de leur téléphone portable. Matteo Salvini réclame des élections anticipées le plus rapidement possible après la multiplication de divergences ces dernières semaines au sein de la coalition. La dernière en date concerne l'achèvement de la ligne TGV Lyon-Turin. Le ministre italien de l'Intérieur précise que le Parlement pourrait être convoqué dès la semaine prochaine afin d'entamer la procédure nécessaire.
France Info.
20h, 21h, les informés, Victor Matet.
Dernière ligne droite dans les informés ce soir, toujours avec Marie-Virginie Klein, communicante associée au cabinet Tilder, Jean-Pierre Pont, directeur du magazine et du site web Journal des Français de l'étranger, et Yannick Halimi, rédactrice en chef adjointe du service politique du Parisien. On parlait de cette ouverture, ce sera à partir du 25 août prochain, et pour la première fois d'un hypermarché le dimanche après-midi, sans aucun caissier, donc uniquement avec des machines. On a entendu aujourd'hui des syndicats, dont la CFDT, dire que c'était un contournement finalement du droit social contre les règles sur l'ouverture dominicale, Jean-Pierre Pont.
Non, mais je crois que la grande distribution est en pleine révolution. On en parlait par rapport à Internet, par rapport au système de livraison à domicile. Donc c'est clair que c'est inévitable et ils vont s'organiser. Ça fait des années qu'ils commencent à s'organiser. Mais quoi qu'il en soit, ces personnes seront probablement recasées dans d'autres métiers. Le développement des rayons bio et autres entraîne de la formation professionnelle, entraîne finalement une réorganisation interne qui était inévitable.
Ça répond vraiment à un besoin des consommateurs, à votre avis, Jean-Pierre Pont ?
Pour moi, c'est clair, bien sûr, parce qu'on a tous changé d'habitude de consommation. Et aujourd'hui, en plus, il y a la grande distribution s'est organisée aussi en proximité, c'est-à-dire qu'en urbain, il y a énormément de points de vente maintenant à portée de caddie. Donc on n'a plus besoin de prendre sa voiture pour aller sur l'hypermarché. Donc c'est inévitable.
Alors on est clairement à la traîne par rapport à la Chine, par rapport aux États-Unis, où alors il y a des systèmes où on peut déjà tout payer avec son téléphone portable, avec des chariots, des caddies, pardon, qui ont vraiment, voilà, même des puces intégrées où les caissiers ont disparu depuis un moment. Marie-Virginie Klein, c'est ce vers quoi on tend, c'est ça le supermarché, l'hypermarché du futur.
Ça fait 15 ans que ça existe en Chine et donc il faut pas trop s'effrayer. Après, il faut jamais sous-estimer l'importance de la culture dans un pays et la façon et l'habileté avec laquelle les marques s'adaptent à la culture d'un pays. Il y a quand même quelque chose qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de familles monoparentales et il y a de plus en plus de familles qui sont deux à travailler. Donc il y a un moment quand même où il faut faire les courses, quoi qu'il arrive. Donc il y a ceux qui les font par Internet et c'est une pratique qui se développe. Mais quand on travaille toute la semaine ou qu'on est tout seul, si on peut faire que ses courses le samedi, c'est une source de stress très importante. Il faut bien un moment que le dimanche, on puisse aller soit faire des grosses courses, soit se aller se dépanner d'un objet, etc. Aux États-Unis, en Chine, au Royaume-Uni, c'est des pratiques qui existent depuis des dizaines d'années, mais parce que ça fait aussi partie de cette culture de pouvoir avoir tout en permanence. En France, on est quand même, on n'est pas dans cet état d'esprit-là, c'est-à-dire qu'en France, on a besoin encore de ce contact humain, on a besoin.
C'est ce que j'allais dire, on a un rapport avec
Didier
le commerçant aussi.
Qui remonte à il y a 20 ans, hein, parce que
c'était le
dernier.
Mais
on a besoin, ça rejoint ce que vous disiez, de plus en plus la fonction de conseil dans les grandes surfaces et puis dans les magasins de proximité se développe. C'est-à-dire que quand on va dans un supermarché, c'est aussi qu'on a envie d'avoir quelqu'un peut-être à qui s'adresser, sinon on ferait tous nos courses par Internet, sauf ceux qui n'ont pas pris encore cette habitude et cet usage. Mais il ne faut pas penser que cette solution-là, c'est une solution de dépannage, la solution des caisses sans caissier, des caisses automatiques. Mais la plupart du temps, les gens viennent, ils recherchent du contact humain, ils recherchent aussi la possibilité d'avoir le choix exposé en rayon, parce que sur Internet, on le voit pas. C'est pas aussi facile que ça de faire ses courses par Internet. Donc il faut, moi, je crois pas du tout que la France, en tout cas, se dirige vers un univers sans caissier, ou alors les caissiers deviendront des conseillers. Et c'est effectivement une transformation du métier.
Yannick Halimi.
Moi, je mettrai quelques bémols. D'abord, je pense que les Français, on est quand même très en pointe sur tout ce qui est technologie. Alors, bien sûr, qu'on aime le contact avec les gens, mais je ne suis pas sûre qu'on soit les seuls à l'être. Mais on est très en avance. Par exemple, la carte bleue, la carte bancaire avec la puce, on a été très en avance, même par rapport aux États-Unis. Je me souviens où ils avaient encore le râteau. Alors
que nous,
pas le râteau, le fer à repasser. Donc on est quand même en avance intellectuellement, j'allais dire, pas seulement technologiquement, mais dans l'utilisation de tout ce qui est technologie. Maintenant, le problème pour la grande distribution, moi je me souviens très bien qu'au moment, il y a encore 10 ou 20 ans, on parlait de la bascule des banques vers tout ce qui était soit distributeur automatique de banque, soit banque sur Internet, et on estimait que c'était pas possible, qu'il fallait le contact avec les guichetiers, qu'il fallait le contact avec les conseillers qu'il fallait le contact avec l'humain, c'était de l'argent, c'était pas seulement justement acheter un paquet de spaghettis, que c'était extrêmement important. Aujourd'hui, tout le monde le sait, la banque sur internet explose dans le sens positif, mm-hmm. j'allais dire du terme. Il y a de moins en moins d'agences, mais il n'y a pas eu ce qu'on a appelé de la sidérurgie bancaire, dans la mesure où les banques, malgré la crise de 2008, avaient des marges suffisamment confortables pour mettre en place des plans d'accompagnement des plans sociaux d'accompagnement, mm-hmm. et surtout de grands plans de formation qui ont permis, comme vous le disiez, Madame Klein, à former ce qui était les guichetiers, à en faire peut-être des conseillers patrimoniaux, etc., etc. Le problème pour la grande distribution, c'est que elle n'a pas les marges du système bancaire. On sait que la grande distribution, et c'est pour cette raison qu'elle peut se permettre de faire des prix très très bas, a des marges extrêmement faibles, et qu'elle a de plein fouet la concurrence d'Amazon ou de grands sites internet, qui ne sont pas des sites intégrés comme pouvaient l'être les banques sur internet par rapport aux grandes banques de dépôt avec guichet. Et là, le problème social, le problème de l'emploi, risque véritablement de se poser, parce que même s'il s'agit de transformer les caissiers et les caissières en conseillères, la grande distribution ne peut pas mais des caisses automatiques, justement, pour tout de même faire des économies de coûts face aux GAFA. Et il risque d'avoir un problème social et d'emploi à gérer. Et là, il va falloir peut-être que les nouveaux systèmes de formation plus individualisés mis en place par la loi votée l'an dernier va permettre cette reconversion. Mais ça reste quand même la plus grosse des menaces, pour le coup.
Un dernier mot sur le sujet, Jean-Pierre Pont, Marie-Virginie Klein.
Pardon, je vous en prie.
Allez-y.
Non, tout simplement, je crois qu'on est dans une révolution de la grande distribution. Et quoi qu'il en soit, c'est par la formation que les solutions seront trouvées. Il n'y a pas d'alternative.
Le dernier mot pour la communicante que vous êtes, Marie-Virginie Klein, sur peut-être cette société justement qui va évoluer aussi. Il n'y a pas que les hypermarchés, il y a aussi cette société qui va se faire.
Je redis encore une fois ce dont j'ai la conviction intime, c'est que ces mêmes grands distributeurs qui mettent des caisses automatiques dans leur supermarché, ce sont les mêmes que ceux qui développent énormément le drive et donc l'achat sur Internet. Donc tout ça, ce sont des solutions intégrées. Et jamais un grand distributeur ne forcera l'opinion à aller vers quelque chose c'est contre-productif. C'est-à-dire que sa réputation, c'est le premier guide de son succès. Donc il écoutera les consommateurs avant tout.
Et ce sera le mot de la fin. Et on vous a écouté tous les trois. Merci à vous d'être venus, Marie-Virginie Klein, Yannick Halimi et Jean-Pierre Pont, les informés.
La une de demain du Parisien, c'est Yannick, la crise dans les urgences hospitalières, bien sûr.
Très bien, merci beaucoup Yannick. Les informés reviennent demain.